Chapitre 16. Ce que disaient toujours les vagues. Paul n'était pas sorti de son petit lit. Il y était couché bien tranquillement, écoutant les bruits de la rue, sans s'inquiéter beaucoup de la manière dont le temps s'écoulait, mais s'en rendant bien compte cependant et suivant tout ce qui se passait autour de lui d'un œil attentif. Quand les rayons du soleil pénétraient dans sa chambre au travers des jalousies, agitées par le vent, et venaient onduler sur le mur comme des vagues dorées, il savait que la nuit approchait et que le ciel était rouge et beau. Quand la lumière s'affaiblissait et que l'ombre continuait de grimper sur le mur, il la regardait devenir plus sombre, jusqu'à ce qu'elle fût enfin la nuit. Il se disait alors que les longues rues étaient, de place en place, éclairées par le gaz, et que les étoiles brillaient d'un éclat paisible dans le ciel. Mais c'était vers le fleuve que son imagination se sentait singulièrement entraînée. Il savait qu'il traversait la ville. Comme il devait être noir, alors. Comme il devait paraître profond, tandis que des milliers d'étoiles venaient s'y réfléchir. Mais surtout, comme il allait droit à la mer, toujours, toujours, sans s'arrêter jamais. À mesure que la nuit avançait, que les pas devenaient si rares dans la rue qu'il pouvait les entendre venir, les compter même quand ils s'arrêtaient, et les perdre dans le vide quand ils s'éloignaient, il restait à regarder de son lit les cercles irisés qui se formaient autour de la bougie et attendait patiemment le jour. Le fleuve seul venait le troubler, le fleuve si prompt et si rapide. Quelquefois il voulait l'arrêter, le repousser avec ses petites mains, y jeter du sable pour le retenir, et quand il le voyait couler malgré tous ses efforts, il jetait un cri de terreur. Mais alors un mot de Florence, qui ne quittait pas son chevet, le rappelait à lui. Il appuyait sa pauvre tête sur le sein de sa sœur, lui parlait de son rêve et souriait. Quand le jour commençait à poindre de nouveau, il épiait le retour du soleil, et quand les gais rayons de l'astre venaient éclater dans la chambre, il se figurait voir, que dis-je, il voyait en effet les hautes tours de l'église se dresser sur le fond azuré du ciel aux premières lueurs du matin. Il voyait la ville sortir de son engourdissement, s'éveiller, revivre encore. Il voyait le fleuve couler tout brillant, mais toujours aussi rapide, et la campagne étincelante de rosée. Des sons, des cris qui lui étaient familiers, se faisaient entendre par degrés dans la rue sous ses fenêtres. Les domestiques allaient et venaient dans la maison. Des figures paraissaient à la porte de sa chambre, et des voix demandaient tout bas de ses nouvelles. Paul répondait toujours lui-même, « Je vais mieux, disait-il. Merci, je vais beaucoup mieux. Dites-le à papa. » Peu à peu, le mouvement de la journée, le bruit des voitures et des charrettes, les allées et venues des passants, le fatiguaient. Il s'endormait, ou bien se sentait poursuivi sans relâche, entre la veille et le sommeil, par la pensée fatigante de ce fleuve irrésistible. « Et quoi, ne s'arrêtera-t-il donc jamais ?» disait-il à Florence. « Il me semble qu'il m'entraîne avec lui. » Mais Florence le calmait et le rassurait, et le plus grand bonheur qu'il put avoir, chaque jour, était de lui faire reposer la tête sur son propre oreiller pour s'y endormir un peu. « Vous veillez toujours près de moi, Florence. C'est à mon tour à vous veiller maintenant. » On calait alors des oreillers dans un coin de son lit, et il y restait appuyé pendant que Florence était couchée près de lui. Bien des fois, il se penchait en avant pour l'embrasser et disait tout bas à ceux qui étaient là, « Elle est fatiguée, voyez-vous. Voilà tant de nuits qu'elle veille près de moi. » Ainsi le jour passait. La chaleur et la lumière diminuaient peu à peu, et c'était le tour des vagues dorées à revenir danser sur le mur. Trois graves docteurs, ni plus ni moins, le visitaient chaque jour. Ils avaient l'habitude de se réunir en bas et de monter ensemble dans sa chambre. Le calme y était si grand, et Paul les observait avec tant d'attention, quoique jamais il n'eût demandé à personne ce qu'ils disaient, qu'il aurait su les reconnaître rien qu'à la différence du tic-tac de leur montre. Mais c'est sur le docteur Park Peps, qui s'asseyait toujours auprès de son lit, qu'il concentrait surtout son intérêt. Paul avait entendu dire, il y avait longtemps, que c'était lui qui était auprès de sa mère quand elle serra Florence dans ses bras pour rendre le dernier soupir. Il ne pouvait pas oublier cela dans l'état où il était. Il n'en avait pas peur pour cela. Bien au contraire, il l'en aimait davantage. Il voyait autour de son lit changer toujours les visages, comme la première nuit de sa maladie chez le docteur Blimber. Excepté Florence, pourtant, qui restait toujours, toujours là. Le docteur Peps se changeait en M. Dombey père, la tête appuyée sur sa main. La vieille Madame Pipchin, quand elle avait bien fait son somme dans un grand fauteuil, se changeait en Miss Tox, à moins qu'elle ne fût remplacée par la tante, et Paul rouvrait et refermait les yeux, après avoir vu ces changements de décoration, sans en éprouver aucune émotion. Il n'y avait que cette personne, toujours la tête appuyée sur sa main, qui revenait si souvent, qui restait là si longtemps, qui était si froide et si grave, n'ouvrant jamais la bouche ni pour parler ni pour répondre, et levant la tête si rarement que Paul commença à se demander languissamment d'abord, puis avec une crainte véritable, quand la nuit fut venue, si cette figure qu'il voyait là toujours assise était bien une personne naturelle. « Florence, dit-il, qu'est-ce que cela ? Où, mon ami ? Là, au pied du lit. Il n'y a que papa. » La figure releva la tête, quitta son siège, et venant à côté de lui, « Mon fils, ne me reconnaissez-vous pas ? Dit-elle. Paul regarda son visage, et il hésita. Était-ce bien son père ? Mais la figure altérée, qu'il tardait à reconnaître, tressaillit sous son regard avec une expression pénible, et avant qu'il eût pu avancer ses deux mains pour la saisir et l'attirer vers lui, elle s'éloigna vivement du petit lit pour aller à la porte. Paul regarda Florence, le cœur tout palpitant, mais il se doutait de ce qu'elle allait lui dire, et il colla sa petite joue contre ses lèvres pour l'empêcher de parler. La première fois qu'il revit ensuite la figure assise au pied de son lit, il l'appela. « Ne vous affligez pas pour moi, cher papa, dit-il. Je suis très heureux, je vous assure. » Son père s'approcha et se baissa vers lui, mais vite et sans s'arrêter auprès du lit. Paul le prit par le cou et lui répéta les mêmes paroles plusieurs fois et avec un accent de sincérité profonde. Depuis, il ne le revit jamais, ni le jour, ni la nuit, dans sa chambre, mais il ne l'en appelait pas moins, lui criant toujours « Ne vous affligez pas pour moi. Je suis très heureux, je vous assure. » C'est ainsi qu'il prit l'habitude de dire chaque matin qu'il allait mieux et qu'il fallait le dire à son père. Combien de fois les vagues dorées se balancèrent-elles sur le mur ? Combien de nuits le fleuve bien noir coula-t-il vers la mer, malgré ses efforts pour l'arrêter ? Paul ne les compta pas et ne chercha pas à le savoir. Mais s'il était possible que l'affection dont il était entouré s'accrût, ainsi que sa reconnaissance, chaque jour on lui témoignait plus d'intérêt, et lui il en montrait plus de gratitude. Que les jours se suivissent, qu'ils fussent plus ou moins nombreux, le pauvre enfant en était venu à ne plus en apprécier le nombre. Une nuit, il venait de penser à sa mère et à son portrait qui se trouvait en bas dans le salon. Il s'était dit qu'elle avait dû aimer la bonne Florence beaucoup plus que ne faisait son père, puisqu'elle l'avait prise dans ses bras quand elle s'était sentie mourir. Car lui, son frère qu'il aimait si tendrement, n'avait pas non plus d'autre désir. Le cours de ses pensées l'amena à se demander s'il avait jamais vu sa mère, car il lui était impossible de se rappeler si on le lui avait dit, oui ou non. Ce soir-là, le fleuve coulait si vite et troublait tellement ses pensées. « Florence, ai-je jamais vu maman ?»« Non, mon ami. Pourquoi ? N'ai-je jamais vu une tendre figure comme celle d'une mère me regarder quand j'étais tout petit ?» Dites Florence. Il faisait cette question d'un air incertain, comme s'il avait quelque image confuse qui traversait son souvenir. « Oh oui, chérie. Laquelle, Florence ? Celle de votre vieille nourrice, bien souvent. Et où donc est-elle, ma vieille nourrice ? Dit Paul. Est-ce qu'elle est morte aussi ? Florence, est-ce que nous sommes morts, tous, excepté vous ? À ces mots, il se fit un mouvement dans la chambre. Cela dura plus longtemps, peut-être, qui sait ? Puis le calme revint. Pendant quelques instants, Florence, bien pâle, mais souriante, soutenait la tête de son frère sur son bras. Son bras tremblait bien fort. « Florence, faites-moi voir ma vieille nourrice, je vous en prie. »« Elle n'est pas ici, mon chéri. Elle viendra demain matin. »« Merci, Florence. » Paul ferma les yeux sur cette promesse et s'endormit. Quand il s'éveilla, le soleil était haut et la journée était chaude et belle. Il resta un moment tranquillement couché, regardant les fenêtres qui étaient ouvertes et les rideaux agités par le vent. Puis il dit, Florence, sommes-nous à demain? Est-elle venue? Il lui sembla que quelqu'un allait la chercher. C'était Suzanne, peut-être. Paul crut l'entendre lui dire, quand il eut refermé les yeux, qu'elle serait bientôt de retour, mais il ne les ouvrit pas pour la voir. Elle tint sa parole, si toutefois elle était sortie. Mais la première sensation qu'il éprouva fut celle d'un bruit de pas dans l'escalier qui le réveilla, tout entier de corps et d'esprit, et il s'assit droit sur son lit. Il les vit tous alors autour de lui, non plus au travers d'un brouillard comme il les voyait quelquefois dans la nuit. Rien ne troublait plus sa vue. Il les reconnut tous et les appela par leur nom. « Et qui donc est là? Est-ce ma vieille nourrice ?» dit l'enfant, tournant sa petite figure radieuse vers un nouveau visage qui venait d'apparaître à la porte. « Oh oui, oui, c'était bien elle. Une autre n'aurait pas versé de telles larmes à sa vue, ne l'aurait pas appelé ainsi son cher enfant, son joli petit enfant, son pauvre enfant malade. Non, une autre femme ne se serait pas baissée ainsi sur son lit pour prendre sa main flétrie, pour la porter à ses lèvres, pour la presser sur son cœur, comme une femme qui se sent le droit de le choyer et de l'aimer. Non, une autre femme n'aurait pas ainsi oublié tout ce qui était présent pour ne s'occuper que de lui et de Florence, et n'aurait pas montré tant de tendresse et de douleur. Florence, quelle bonne et douce figure, dit Paul. Je suis bien aise de la revoir. Ne vous en allez pas, ma vieille nourrice, restez là près de moi. Tous ses sens étaient bien éveillés, et il entendit prononcer un nom qu'il reconnut. « Qui a donc parlé de Walter ? » demanda-t-il en regardant autour de lui. « Quelqu'un a prononcé le nom de Walter. Est-ce qu'il est ici ? Je serais bien content de le voir. » Personne ne répondit sur le moment. Mais son père dit aussitôt à Suzanne, « Alors, rappelez-le et qu'il monte. » Après un moment d'attente, pendant lequel il continua de regarder sa nourrice avec un sourire plein de surprise et d'intérêt, s'apercevant avec plaisir qu'elle n'avait pas oublié Florence, Walter parut dans la chambre. Sa figure ouverte et ses manières franches, ses yeux vifs et animés en avaient fait le favori de Paul. Aussi, quand l'enfant le vit, il avança sa main et lui dit « Adieu !»« Non, mon enfant, » dit Madame Pipchin en s'approchant vivement de son lit. « Non, non, pas adieu !» Un instant, Paul la regarda de ce même regard pensif et rêveur qu'il avait souvent attaché sur elle quand ils étaient au coin du feu. « Ah, si !» reprit-il tranquillement. « Adieu, cher Walter, adieu !» Et tournant sa tête de son côté, en étendant de nouveau la main, « Où est papa ?» dit-il. Ces mots n'étaient pas encore sortis de ses lèvres, qu'il sentait sur sa joue le souffle brûlant de son père. « Souvenez-vous de Walter, cher papa, » dit-il tout bas en le regardant. « Souvenez-vous de Walter, je l'aimais beaucoup. » Sa petite main languissante s'agita de nouveau, comme pour crier encore à Walter, « Adieu, adieu !»« Maintenant, couchez-moi, » dit-il, « et vous, Florence, venez là tout près de moi, que je vous vois. » Le frère et la sœur s'enlacèrent dans les bras l'un de l'autre, et les rayons dorés vinrent tomber tout brillants sur eux, pendant qu'ils se tenaient ainsi serrés l'un contre l'autre. « Oh, Florence ! Comme le fleuve coule vite au milieu des vertes prairies et des roseaux. Mais le voilà tout près de la mer. J'entends les vagues. C'est bien leur voix. C'est bien là ce qu'elle disait toujours. » Il ajouta ensuite, « Le mouvement du bateau sur les eaux me berce et m'endort. Que les rives sont vertes maintenant. Que les fleurs qui croissent sur les bords sont brillantes. Et que les roseaux sont hauts. Voici le bateau qui arrive à la mer. Mais il glisse doucement dans ses eaux. Là-bas, là-bas, je vois un rivage. Qui donc est là, debout, qui m'y attend ? » Il croisa ses petites mains comme il avait l'habitude de le faire en priant. Mais ses bras serraient toujours Florence, et ses mains se croisèrent derrière le cou de sa sœur. « C'est maman ! Elle vous ressemble, Florence. Je la reconnais. Oui, c'est bien son visage. Dites-leur seulement que son portrait, qui est au premier dans la pension, n'est pas assez divin. À mesure que j'avance vers elle, l'auréole qui ceint sa tête répand sur moi son éclat. » Le rayon doré revint se balancer sur le mur, et rien d'autre ne remua plus dans la chambre. Ah, toujours cette vieille histoire, aussi vieille que le temps. Changez, changez, mode du monde, celle-là ne changera jamais. Elle a taillé nos langes dans le berceau, comme elle taillera notre linceul pour la tombe. Non, non, elle ne changera pas avant que notre race ait épuisé sa course. Avant que le firmament qui tourne sur nos têtes soit au bout de son rouleau, cette vieille, vieille mode qu'on appelle la mort. Oui, mais remerciez Dieu, vous tous qui la voyez avec moi. Remerciez-le de cette loi plus vieille encore que la mort, celle de l'immortalité. Et vous, anges des petits enfants, puissiez-vous tourner vers nous des regards consolateurs quand le fleuve rapide nous entraînera aussi vers l'océan. « Oh, mon Dieu !» s'écria Miss Tox en sanglotant de nouveau pendant la soirée, comme si son cœur eût été brisé. « Dire que Dombey et fils ne sera qu'une fille, après tout. » Chapitre 17. Le capitaine Cuttle travaille joliment pour les jeunes gens. Comme il arrive généralement aux personnes simples d'esprit, le capitaine Cuttle se croyait doué par la nature d'un talent surprenant pour former des projets d'une profondeur impénétrable. Il s'était donc rendu chez M. Dombey le dimanche, jour du triste événement, clignant de l'œil tout le long de la route de l'air le plus malin, en l'honneur de sa sagacité incomparable. Il s'était présenté à Tollinson dans tout l'éclat de ses brodequins lacés. Mais, ayant appris de cet individu le malheur qui menaçait M. Dombey, le capitaine, sensible à cette triste nouvelle, s'éloigna par délicatesse, encore une fois confondu. Il laissa seulement son bouquet comme une légère preuve de son intérêt et pria Tollinson de présenter ses compliments respectueux à toute la famille en général, ajoutant qu'il espérait que dans ces tristes circonstances, il saurait bien faire tête au vent. Au reste, il leur ferait l'amitié de repasser le lendemain. Les compliments du capitaine restèrent en route, ensevelis dans le sein de Tollinson. Quant à son bouquet, après avoir traîné toute la nuit dans le vestibule, il fut balayé le lendemain matin avec les ordures, et le plan si habilement formé par le capitaine s'écroula au milieu de la catastrophe qui ruinait de plus grandes espérances et de plus hauts desseins et se trouva brisé en 1000 morceaux. Ainsi, quand une avalanche entraîne avec elle de la montagne une forêt entière, les buissons et les ronces souffrent avec les chênes les plus superbes et tous périssent de compagnie. Walter, en rentrant chez lui le dimanche soir, après sa longue promenade qui s'était terminée d'une façon si mémorable, était trop occupé des nouvelles qu'il avait à leur apprendre et du trouble qu'avait fait naître dans son cœur la scène qui s'était passée devant lui pour rien observer. Aussi ne s'aperçut-il pas que son oncle ne savait rien encore de son départ. Et le capitaine eut beau agiter son croc pour l'empêcher de parler sur le sujet en question, ce fut peine inutile. Il est vrai que les gestes du capitaine n'étaient pas de nature à se faire facilement comprendre, même d'un observateur plus attentif. Car, imitant ces sages de la Chine, qui, dans leurs conférences, écrivent à ce que l'on dit dans l'air certains mots cabalistiques qu'il serait impossible de prononcer, le capitaine faisait avec son croc tant d'ondulations et de moulinets qu'il fallait être initié à ces signes mystérieux pour avoir l'espérance de les comprendre. Le capitaine Cuttle, cependant, en apprenant ce qui s'était passé, renonça à fermer la bouche à Walter. Il comprit le peu de chance qu'il lui restait à présent de dire deux mots à M. Dombey avant le départ de son protégé. Mais tout en s'avouant, de l'air le plus désappointé et le plus abattu, qu'il fallait bien que Sol Gills fût prévenu du départ de son neveu, sans que la tendresse d'un ami l'eût préparé à cette nouvelle pour en atténuer le coup, le capitaine ne pouvait s'empêcher de se dire aussi, avec une confiance obstinée, que lui, Cuttle, était l'homme de M. Dombey, et qu'il ne s'agissait après tout pour arranger les affaires de Walter que de se rencontrer ensemble une bonne fois. Car le capitaine ne pouvait oublier combien M. Dombey et lui s'étaient bien compris à Brighton, comme chacun d'eux avait su placer son mot à propos, comme ils avaient appris à s'estimer l'un l'autre sur le terrain. Il ne pouvait oublier non plus que c'était lui, Cuttle, qui avait eu l'idée heureuse de s'adresser à M. Dombey dans la situation difficile où l'on s'était trouvé et qui avait réussi à mener l'affaire à bien. Le capitaine, par tous ses motifs, n'eut donc pas de peine à se calmer, en pensant que si la force des événements obligeait Ned Cattle à rester en panne pour le moment, comme un bâtiment désemparé, Cattle saurait bien cingler en avant quand il le faudrait, bon vent, bonne voile, et tout balayer sur son passage. Sous l'influence de cette illusion bienveillante, le capitaine, tout en regardant Walter et laissant couler une larme sur son col de chemise, au récit qu'il faisait, alla jusqu'à se demander s'il ne serait pas de bon ton et de bonne politique de faire à M. Dombey une invitation en règle la première fois qu'ils se rencontreraient. M. Dombey viendrait casser une croûte avec lui à Brick Place le jour qu'il lui conviendrait, et l'on causerait de l'avenir du jeune ami en trinquant le verre de l'amitié. Une seule chose inquiétait le capitaine, c'était l'humeur acariâtre de Mme Maxtinger. Qui sait si elle n'irait pas s'installer dans le corridor pendant leur partie pour y débiter quelques mélies de son cru d'une nature peu flatteuse. Cette hypothèse réprima sur-le-champ les inclinations hospitalières du capitaine Cattle et lui ôta toute envie de donner suite à son projet. Pendant que Walter restait tout pensif devant son dîner, sans y toucher, absorbé par les événements qui venaient de se passer, il restait clair pour le capitaine que malgré la modestie de Walter, qui l'empêchait de voir les choses sous leur aspect véritable, le jeune homme était déjà, à vrai dire, un membre de la famille Dombey. Il avait été mêlé en personne à l'incident qu'il racontait d'une façon si touchante. Le petit Paul l'avait nommé et recommandé à son père, et son sort ne pouvait manquer d'intéresser désormais son patron d'une façon toute particulière. Si le capitaine nourrissait encore quelques doutes secrets sur ses conclusions, il ne doutait pas de moins qu'elles ne fissent bon effet pour rassurer l'opticien. Il profita donc d'un moment aussi favorable pour mettre son vieil ami au courant de l'affaire des Grandes Indes, qu'il lui présenta comme un avancement extraordinaire. « Pour moi, disait-il, je donnerais volontiers 100 000 livres sterling, si je les avais, à hypothéquer sur les succès à venir de Walter, et c'est un placement qui rapporterait bientôt une jolie prime. » Solomon Gills, d'abord, fut foudroyé par cette nouvelle, qui venait fondre comme un coup de tonnerre sur la petite salle à manger, et troublait si cruellement la paix du foyer. Mais le capitaine lui éblouit les yeux d'une perspective si brillante, fit tant d'allusions mystérieuses au succès de Whittington, répéta avec tant d'emphase les circonstances du récit de Walter, y trouva la preuve si évidente déjà de ses prédictions et des rapports si frappants avec la romance sentimentale de la belle Susan, que le vieillard en fut tout ému. Walter, de son côté, feignait tant d'espoir, tant d'ardeur, il paraissait tellement sûr de revenir bientôt, à chaque parole du capitaine, il l'appuyait en secouant la tête avec tant d'énergie, en se frottant les mains avec un tel contentement, que Solomon, après avoir jeté sur lui les yeux d'abord, puis après sur le capitaine Cattle, commença à croire qu'il était aussi de son devoir d'être transporté de joie. « Mais c'est que je ne suis plus de ce siècle, vous savez, » dit-il, par forme d'excuse, en passant et repassant sa main avec un mouvement fébrile du haut en bas sur ses boutons d'acier, comme si c'eussent été les grains d'un chapelet qu'il voulait dire et redire. « Je ne suis plus de ce siècle, et j'aimerais beaucoup mieux conserver ici mon cher enfant. C'est pour lui un goût de vieille date, je le sais. Il a toujours aimé la mer. Il est, » Solomon Gills regardait Walter d'un air de reproche, « il est content, lui, de partir. » « Oncle Sol, » s'écria Walter vivement, « si vous dites de pareilles choses, je ne partirai pas. »« Non, capitaine Cattle, je ne partirai pas. »« Si mon oncle pense que je suis bien aise de le quitter, quand même je devrais être nommé gouverneur de toutes les îles des Grandes Indes, cela suffit, je ne bouge pas. »« Walter, mon garçon, » dit le capitaine joliment, « Sol Gills, regardez votre neveu. » Suivant de ses yeux le geste plein de majesté que fit avec son croc le capitaine, le vieillard regarda Walter. « Voilà un bâtiment qui va partir en voyage, » dit le capitaine, comme pénétré de la magnifique comparaison dans laquelle il allait se lancer. « Quel nom va-t-il porter écrit sur sa proue en caractères ineffaçables ? Est-ce le guet ? Ou bien, » dit le capitaine, éleva la voix, comme pour attirer l'attention sur la fin de sa période, « ou bien est-ce le Gills ?» Cathol, dit le vieillard, en attirant Walter près de lui et passant affectueusement son bras dans le sien, je le sais, je le sais. Je suis bien sûr que Walter pense toujours à moi plus qu'à lui. Je serais bien fâché de croire le contraire. Quand je dis qu'il est content de partir, je veux dire que j'espère bien qu'il l'est. Mais voyez-vous, Cathol, et vous aussi Walter, mon cher enfant, c'est si nouveau, si inattendu pour moi. J'ai peur que mon peu de succès dans les affaires et ma pauvreté ne soient pour quelque chose au fond de cette résolution. Est-ce vraiment pour lui une bonne fortune ? Dit le vieillard en les regardant avec inquiétude l'un après l'autre. Voyons réellement et sincèrement, qu'est-ce que vous en dites ? Est-ce heureux pour lui ? Je peux me résigner à quoi que ce soit pour l'avantage de Walter, mais je ne pourrais supporter l'idée que mon petit Wally courût le moindre risque pour moi ou qu'il me cachât quelque chose. Voyons, Cathol, vous, mon vieil ami, dit le vieillard en serrant de près le capitaine, à la grande confusion de cet habile diplomate. Êtes-vous bien sincère avec votre vieil ami ? Parlez, Cathol. N'y a-t-il pas quelque chose là-dessous ? Faut-il qu'il parte ? Comment se fait-il que vous ayez su tout cela avant moi ? Et pourquoi ? Walter, dans cette lutte de tendresse et d'abnégation, vint avec chaleur au secours du capitaine. À eux deux, ils parvinrent à réconcilier à peu près le vieux Sol Gills avec le projet en question, à force de lui en faire valoir les avantages, ou plutôt, ils l'étourdirent si bien qu'il devint incapable de rien voir ni de rien sentir distinctement, pas même la douleur de cette séparation. Du reste, il n'avait pas grand temps pour peser le pour et le contre, car le lendemain même, Walter reçut de M. Carker, le gérant, les instructions relatives à son départ et à son bagage. Avis lui était en même temps donné que le fils et héritier mettrait à la voile dans 15 ou 16 jours au plus tard. Ahuri par les embarras des préparatifs que Walter n'eut garde de diminuer, le brave opticien perdit le peu de tête qu'il n'avait jamais eu et n'avait pas eu le temps de penser au départ, que le départ était déjà arrivé. Le capitaine, qui ne manquait pas de se faire tenir jour par jour au courant de ce qui se passait par les questions qu'il faisait à Walter, vit approcher ce moment sans avoir pu trouver ni espérer l'occasion d'approfondir sa situation. Ce fut après avoir mûrement réfléchi et profondément médité sur ce fâcheux contretemps qu'une idée lumineuse s'empara du capitaine. Pourquoi n'irait-il pas trouver M. Carker pour tirer de lui quelque chose et sonder le terrain ? Cette idée plut beaucoup au capitaine. Elle lui vint dans un moment d'inspiration pendant qu'il fumait le matin sa pipe dans Brick Place après son déjeuner. Vraiment, il devait de la reconnaissance au tabac. Ce serait un moyen de calmer sa conscience, tout honnête qu'elle était, mais enfin un peu troublée par les confidences de Walter et les paroles de Sol Gills, et en même temps ce serait un trait d'amitié de sa part, plein de dévouement et d'habileté. Il sonderait adroitement M. Carker, et suivant le caractère que montrerait ce personnage, il saurait parler ou se taire. Il aurait bientôt découvert s'il s'entendait, oui ou non. En conséquence, sans craindre de rencontrer Walter, qu'il s'avait occupé à faire chez lui ses paquets, le capitaine, chaussé de nouveau de ses étroits brodequins et sa cravate ornée de son épingle de deuil, se mit en route pour cette seconde expédition. Il ne fit pas emplette cette fois d'un bouquet propitiatoire, déplacé dans un rendez-vous d'affaires, mais il mit à sa boutonnière un soleil pour se décorer d'un petit air champêtre. Puis son bâton noueux à la main, et son chapeau de toile ciré sur la tête, il cingla droit sur les bureaux de Dombey et fils. Après avoir pris un grog rhum bien chaud dans une taverne tout près de là, pour rendre ses idées plus nettes, le capitaine, de peur d'en laisser évaporer les effets bienfaisants, ne fit qu'un bond dans la cour et parut tout à coup devant M. Pudge. « Camarade, dit le capitaine d'un ton insinuant, n'avez-vous pas un de vos amiraux qui porte le nom de Carker ?» « Oui, monsieur, répondit Pudge. Mais il est de mon devoir de vous dire que tous mes amiraux, comme vous les appelez, sont occupés en ce moment, et qu'il n'est pas possible de les déranger. » « Écoutez un peu, mon vieux, lui dit le capitaine dans le tuyau de l'oreille. Je me nomme le capitaine Cathol. » Le capitaine aurait bien voulu attirer Pudge doucement à lui, avec son croc, mais M. Pudge se déroba à l'étreinte, frappé surtout à l'idée que la vue subite d'une arme pareille présentée à Madame Pudge, son épouse, dans l'état intéressant où elle était, suffirait pour mettre en péril toutes ses espérances de postérité. Si vous voulez avoir la bonté de dire que le capitaine Cuttle est ici, quand vous trouverez le joint, dit le capitaine, je vais attendre. Et le capitaine s'étant assis sur la tablette de M. Pudge, tira son mouchoir du fond de son chapeau de toile cirée, qu'il serra entre ses genoux, sans craindre d'en changer la forme, il n'y avait pas de forme humaine capable de le faire, s'essuya et se frotta le front bel et bien, ce qui parut le rafraîchir. Il arrangea ensuite ses cheveux avec son croc et promena ses regards tout autour du bureau, examinant les employés d'un air serein. Le calme du capitaine avait quelque chose de si impénétrable, et c'était dans tout son ensemble un personnage si mystérieux, que Pudge, l'homme de peine, ne put plus y tenir. « Quel nom m'avez-vous dit ? » demanda-t-il en se penchant vers lui, pendant qu'il restait assis sur la tablette. « Capitaine, » répondit l'autre tout bas, mais d'une voix creuse. « Oui, » dit M. Pudge, remuant la tête à l'unisson. « Cuttle, » ajouta le capitaine. « Oh !» dit M. Pudge du même ton, car il avait malgré lui pris son diapason, le capitaine était si expressif dans ses négociations diplomatiques. « Je vais voir s'il n'est plus occupé. Je ne sais, mais peut-être pourra-t-il vous accorder une minute. »« Oui, oui, mon garçon, je ne le retiendrai pas plus d'une minute, » dit le capitaine en remuant la tête d'un air d'importance, en homme qui sent ce qu'il vaut. Pudge revint bientôt lui dire « Le capitaine Cuttle veut-il bien passer par ici ?» M. Carker, le gérant, se tenait debout sur le tapis devant la cheminée sans feu, dont le foyer était masqué par un édifice élégant de papier gris festonné. Il regarda le capitaine, quand il entra, d'un air qui n'avait rien d'encourageant. « M. Carker, sans doute, » dit le capitaine. « J'aime à le croire, » dit M. Carker en montrant toutes ses dents. Le capitaine fut charmé de cette réponse, accompagnée d'un sourire. C'était de bon augure. « Vous voyez, » dit le capitaine, en tournant ses yeux lentement autour de la petite chambre, à peine assez grande pour y développer tout l'effet de son col de chemise, « je suis un marin, monsieur Carker, et Walter, qui est enrôlé ici, est presque mon fils. »« Walter Gay, » dit monsieur Carker, en montrant de nouveau toutes ses dents. « Oui, justement, Walter Gay, » répondit le capitaine, dont le geste animé montra combien il était agréablement surpris de la vive perspicacité de M. Carker. « Je suis l'ami intime de Walter et de son oncle. Peut-être, continua le capitaine, avez-vous entendu votre patron prononcer mon nom ? Je me nomme le capitaine Cuttle. » « Non, » dit M. Carker en ouvrant la bouche plus grande encore qu'auparavant. « Eh bien, » dit le capitaine, « j'ai le plaisir de le connaître. Je me suis présenté chez lui, sur la côte de Sussex, avec mon jeune ami Walter, quand il s'est agi de ce petit arrangement. Vous vous rappelez, n'est-ce pas ? » Et le capitaine secoua la tête d'un air tout à fait sans façon, aisé et expressif. « Je crois, » dit M. Carker, « que c'est moi qui ai eu l'honneur d'arranger moi-même l'affaire. »« Oui, justement, c'est bien cela, » répondit le capitaine. « Maintenant, je dois vous dire que j'ai pris la liberté de venir ici. Veuillez vous asseoir, » dit M. Carker en souriant. « Je vous remercie, » répondit le capitaine, profitant de l'offre qui lui était faite. « Un homme assis doit être plus maître de ses idées dans la conversation. Ne prenez-vous pas un siège aussi ?»« Non, je vous remercie, » répondit le gérant, le dos appuyé contre le marbre de la cheminée, sans doute par suite d'une vieille habitude contractée pendant l'hiver, et regardant le capitaine fixement de tous ses yeux et de toutes ses dents. « Vous avez donc pris la liberté ? C'est vous qui le dites. » « Oui, grand merci, mon garçon, » répondit le capitaine. « La liberté de venir ici vous parler de mon ami Walter. Sol Gills, son oncle, est un homme de science, et on peut dire de lui, en fait de science, que c'est un vrai vapeur perfectionné, quoique ce ne soit pas ce qui s'appelle un marin expérimenté. Oh non, ce n'est pas un loup de mer. Walter, lui, est bien le garçon le mieux équipé que l'on ait vu, mais il a la tête un peu faible sous un rapport, il est trop modeste. » « Ce que je voulais vous dire, » ajouta le capitaine, en couvrant sa grosse voix d'un air de confidence, « ce que je voulais vous dire en ami, là, tout à fait entre nous, et pour ma gouverne, en attendant que votre chef de file vienne à longueur de mon porte-voix, ce que j'ai à vous dire, le voici. » Tout marche-t-il ici droit et bien? Et Walter s'en va-t-il bon vent, bonne voile? Que voulez-vous dire par là, capitaine Cuttle? Répondit Carker en relevant les pans de son habit et prenant une pose solide. Voyons, vous, qui êtes un homme du métier, qu'en pensez-vous? Il n'y a au monde que les mots chinois, ces mots aériens dont nous avons parlé, qu'aucune langue ne peut prononcer, qui fussent capables de rendre la finesse et la malice de l'œil du capitaine quand il le retroussa de côté pour toute réponse. « Allons, dit-il, encouragé au-delà de toute expression, qu'en dites-vous? Ai-je tort ou raison ?» Le capitaine, enhardi et poussé par la politesse toute souriante de M. Carker, avait exprimé tant de choses dans son coup d'œil qu'il croyait pouvoir faire cette question aussi sûrement que s'il avait développé sa pensée dans une amplification étendue. « Vous avez raison, dit M. Carker, cela ne fait pour moi aucun doute. »« Eh bien, alors, comme je le disais, le temps serein, » s'écria le capitaine. M. Carker fit en souriant un signe d'assentiment. « Vent arrière et comme il faut, » poursuivit le capitaine. M. Carker fit un nouveau sourire d'assentiment. « Ah !» dit le capitaine enchanté, « je savais bien comment voguait son vaisseau. » Je l'avais déjà dit à Walter. Merci, merci. Gay a devant lui un avenir brillant, remarqua M. Carker en ouvrant sa bouche plus grande encore. Il a le monde entier devant lui. Le monde entier et sa femme, par-dessus le marché, comme l'on dit, répondit le capitaine tout joyeux. À ces mots, sa femme, qu'il avait du reste prononcée sans dessein, le capitaine s'arrêta, cligna de l'œil de rechef, et mettant son chapeau de toile cirée au bout de son bâton noueux, il lui fit faire un tour rapide en regardant de côté son ami toujours souriant. « Je parierais une bouteille de vieux Jamaïque que je sais ce qui vous fait sourire, » dit le capitaine en le regardant attentivement. « Voyons, » dit M. Carker en riant plus fort. « Cela n'ira pas plus loin, » fit le capitaine en donnant avec son bâton noueux un coup dans la porte pour s'assurer qu'elle était fermée. « Non, soyez tranquille, » dit M. Carker. « Eh bien, ce que vous pensez, j'en suis sûr, » commence par un F majuscule. M. Carker ne nia pas le fait. Puis un L, puis un O. M. Carker souriait toujours. « Ai-je encore raison ?» dit le capitaine à voix basse pendant que la joie gonflait sur son front le cercle écarlate formé par son chapeau. M. Carker, pour réponse, sourit en faisant encore un signe d'assentiment et le capitaine s'étant levé, lui serra la main, l'assurant avec feu, qu'ils couraient tous deux la même bordée et que pour lui, Cuttle, il y avait longtemps qu'il avait mis son cap de ce côté. « Il a fait sa connaissance d'une manière tout à fait singulière, » dit le capitaine, du ton grave et retenu que réclamait le sujet. « Vous vous rappelez comment il l'a trouvée dans la rue, quand elle n'était encore qu'une enfant. Depuis, ils se sont aimés tous deux autant que le peuvent faire deux amoureux de cet âge. Nous avons toujours dit, Sol Gills et moi, qu'ils sont taillés l'un pour l'autre. Un chat, un singe, une hyène ou une tête de mort n'auraient pas pu montrer à la fois au capitaine un râtelier de dents plus complet que ne le fit M. Carker à ce moment de leur entrevue. « Le courant y va tout droit, » dit l'heureux capitaine. « Le vent et l'eau sont d'accord, vous voyez ?» Quelle chance pour lui de s'être trouvé là l'autre jour. C'était tout ce qui pouvait lui arriver de plus heureux, dit M. Carker. « Songez un peu de quelle façon il a été remorqué dans les eaux de cette journée, » poursuivit le capitaine. « Quelle tempête pourrait le pousser à la dérive maintenant ?»« Aucune, » répondit M. Carker. « Vous avez bien raison, » reprit le capitaine, en lui serrant encore la main. « Non, rien ne pourra l'arrêter. Ainsi, bon courage. Voilà le fils parti, un bon pauvre petit enfant, n'est-ce pas ?»« Oui, voilà le fils parti, » dit M. Carker avec complaisance. « Eh bien, comptez là-dessus, en voilà un autre de retrouver, » s'écria le capitaine, « le neveu de l'oncle scientifique, le neveu de Sol Gills, Walter, déjà au courant de vos affaires. » Et, ajouta le capitaine, arrivant graduellement à une citation qu'il préparait pour le bouquet, et qui vient chaque jour de chez Sol Gills soigner vos intérêts et conquérir vos cœurs. L'air heureux du capitaine, en poussant doucement du coude M. Carker à chacune des phrases que nous venons de citer, n'était rien auprès de la joie qu'il laissa éclater quand il eut fini ce brillant échantillon d'éloquence et de sagacité. Il se rejeta en arrière pour regarder en face M. Carker, pendant que son grand gilet bleu se soulevait violemment sous le travail palpitant d'un tel chef-d'œuvre d'imagination et que son nez en était devenu cramoisi. « Ai-je raison ?» dit le capitaine. « Capitaine Cuttle, » dit M. Carker en s'inclinant jusqu'aux genoux, d'une façon si plaisante qu'on aurait dit qu'il se baissait en peloton pour se ramasser tout d'une pièce, « vos vues sur Walter Kay sont parfaitement justes. Rien n'y manque. Il est bien entendu que tout ceci est entre nous. » « C'est sur l'honneur, » dit le capitaine. « Pas un mot, ni à lui, ni à qui que ce soit, » continua le gérant. Le capitaine prit un air grave et secoua la tête résolument. « Ce n'est absolument que pour votre satisfaction et votre gouverne, comme de juste, » répéta M. Carker, « dans vos démarches à venir. » « Je vous suis bien reconnaissant, » dit le capitaine, écoutant avec la plus grande attention. « Je n'hésite pas à dire que les choses sont telles que vous l'avez pensé. Vous avez admirablement établi votre calcul de probabilité. Et quant à votre chef de file, il vaut mieux que notre entrevue arrive d'elle-même et tout naturellement, n'est-ce pas ? Nous avons tout le temps, » dit le capitaine. M. Carker, la bouche fendue jusqu'aux deux oreilles, répéta « tout le temps certainement ». Ou plutôt sa langue et ses lèvres semblèrent répéter ces mots pendant qu'il se contentait d'incliner la tête d'un air affable. Maintenant donc, j'en suis sûr, et du reste, je l'avais toujours dit, Walter est sur la route de la fortune. Sur la route de la fortune, dit M. Carker, toujours sans parler. Et le départ de Walter est tout simplement, n'est-ce pas, la conséquence de sa position dans la maison et le commencement de la réalisation de ses espérances. De ses espérances, fit encore M. Carker, toujours silencieux cependant. « Eh bien, maintenant que je sais tout cela, dit le capitaine, il n'y a plus besoin de se tourmenter, je suis tranquille. » M. Carker, ayant continué à approuver de la tête ce que disait le capitaine Cuttle, celui-ci sentit se confirmer de plus en plus la haute opinion qu'il avait de M. Carker. C'était bien décidément un des hommes les plus aimables qu'il eût jamais rencontré, et M. Dombey ne pouvait que gagner dans sa société. Le capitaine donc lui tendit encore une fois son énorme main, aussi noire et aussi dure qu'une palette de noyer, et lui serra la sienne avec tant d'effusion que la peau plus tendre de M. Carker conserva des marques profondes des fentes et des crevasses dont celle du capitaine était littéralement tatouée. « Adieu, » dit le capitaine, « je ne sais pas faire de phrases, mais en un mot comme en mille, comptez sur ma reconnaissance pour votre bonté et votre franchise. » « Vous me pardonnerez, n'est-ce pas, de vous avoir importuné ?»« Pas le moins du monde, » répondit M. Carker. « Mille remerciements. Ma cabine n'est pas très grande, mais elle est assez commode. Et si vous veniez à passer près de Brick Place n'importe quand, veuillez vous souvenir du numéro 9 et monter chez moi sans vous inquiéter de ce que l'on vous dira en bas. Ce serait pour moi un véritable honneur de vous recevoir. » Sur cette gracieuse invitation, le capitaine se dirigea vers la porte et dit en la refermant sur lui « Adieu, adieu !» laissant M. Carker toujours appuyé contre le marbre de la cheminée. Dans le regard plein de malice du gérant, dans son air curieux, dans sa bouche traîtresse, ouverte tout du long, mais non pas pour sourire, dans sa cravate irréprochable et dans ses favoris même, bien alignés, comme aussi dans le mouvement de sa main qui caressait en silence, tantôt la blanche batiste de sa cravate, tantôt son menton poli, il y avait décidément du chat à faire peur. Le pauvre capitaine, cependant, s'en allait dans un état de satisfaction personnelle et de glorification d'amour-propre qui donnait une tournure élégante même à son habillement indigo. « Cuttle, mon garçon, tiens bon, » disait-il, « tu peux te vanter d'avoir joliment travaillé pour les jeunes gens aujourd'hui. » Dans l'ivresse de sa joie et se regardant déjà pour le présent et pour l'avenir, comme un ami de la maison, le capitaine, en passant dans le bureau d'entrée, ne put s'empêcher de gouailler un peu M. Pudge. « Hé, hé, camarade, pensez-vous encore que tout le monde soit occupé ?» lui dit-il. Mais, ne voulant pas non plus se montrer trop cruel pour un homme qui n'avait fait que son devoir, le capitaine ajouta tout bas, « Si un grand gorum peut vous être agréable, venez, je ne serai pas fâché d'en prendre un avec vous. » Avant de quitter les lieux, le capitaine, ce qui étonna quelque peu les employés, se plaça à un point central pour regarder tout autour de lui et prendre un aperçu général du bureau comme s'il faisait partie de l'association dans laquelle son ami était presque intéressé désormais. Le fort détaché de M. Dombey excita principalement son admiration. Mais pour ne pas paraître trop indiscret, il se borna à y jeter un coup d'œil approbateur et, adressant au corps des employés en masse un salut civil et protecteur, il sortit dans la cour. Bientôt rejoint par M. Patch, il le fit entrer dans la taverne et se mit en mesure de remplir sa promesse, et au plus vite, car le temps de M. Patch était précieux. « Je porte un toast, » dit le capitaine, « à Walter. »« À qui ?» dit M. Patch. « À Walter !» répéta le capitaine d'une voix de tonnerre. M. Patch, qui parut se rappeler avoir entendu dire dans son enfance qu'il avait existé un poète de ce nom, ne fit aucune objection. Seulement, il s'étonna que le capitaine fût venu dans la cité pour boire à la santé d'un poète. Certes, il n'aurait pas dérouté davantage l'expérience de M. Patch s'il eût proposé d'élever la statue d'un poète, de Shakespeare par exemple, dans une rue de commerçants. Somme toute, ce capitaine était un personnage si mystérieux, si incompréhensible, que M. Patch se promit bien de ne pas dire un mot de lui à Mme Patch, de peur d'amener quelques fâcheuses conséquences. Positivement persuadé qu'il avait joliment travaillé pour les jeunes gens, le capitaine, en effet, resta tout le jour mystérieux et incompréhensible, même pour ses amis intimes. Si Walter n'avait pas attribué ses clignotements d'œil, ses grimaces et mille autres espèces de pantomimes à la joie qu'il éprouvait du succès de la ruse innocente pour calmer le vieux Sol Gills, bien certainement l'indiscret se serait trahi par là avant la fin de la soirée. Quoi qu'il en soit, il garda son secret et quitta fort tard la maison de l'opticien. Son chapeau de toile ciré sur le coin de l'oreille, il avait l'air si tapageur, ses yeux étaient si étincelants que Mme Maxinger, à sa vue, alla se cacher derrière la porte et s'en fit un rempart sans oser en sortir pour aller contempler ses chers enfants avant d'être bien sûr que le capitaine était rentré dans sa chambre. Et pourtant, Mme Maxinger était digne d'avoir été élevée dans la maison du docteur Blimber, tant elle avait un cœur de matrone romaine.